Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le saviez-vous, après les attentats de janvier 2015, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, demandait elle-même au Conseil supérieur des programmes de renforcer la place de l'enseignement du fait religieux à l'école. Un fait qui souligne la petite révolution en cours en France autour de ce sujet. Les religions feraient-elles leur retour dans l'enceinte de l'école républicaine ? Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, école, quel enseignement du fait religieux, avec autour de la table, honneur aux dames, Claire Rességuier, vous êtes professeure d'histoire, géographie au lycée Sainte-Marie-des-Champs à Toulouse, et vous intervenez aussi dans le cadre de l'ISFEC, qui est le centre de formation des maîtres, vous nous expliquerez un peu plus tard ce que c'est, bonjour.
Bonjour.
Philippe Dazébrun, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Et Mathieu Galvani, vous êtes adjoint en pastoral à Saint-Nicolas à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Alors, je citais en introduction donc cette déclaration, cette demande de Najat Vallaud-Belkacem qui, je l'avoue, m'a surpris. C'est vrai qu'en se plongeant un petit peu dans le sujet, on a l'impression que, de fait, les multiples attentats que la France connaît depuis maintenant un certain nombre d'années, qui sont évidemment de pire en pire, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais en tout cas de plus en plus importants, plus présents dans la société française, accéléreraient un petit peu la question autour de l'enseignement du fait religieux. Je citerai aussi, en introduction de cette émission, une déclaration de François Hollande, presque au lendemain des attentats de janvier 2015, aurait demandé à ce qu'il y ait une attention particulière à l'enseignement du fait religieux, dans l'école républicaine. Philippe Dazébrun, est-ce que, de fait, j'ai envie de dire, la réponse est presque dans la question, mais l'irruption de cette violence soi-disant religieuse au cœur de la société française précipite un peu la question de l'enseignement du fait religieux ou pas ?
Bien sûr. Effectivement, cette violence a une cause, et on essaie, pour essayer de juguler cette violence, d'en trouver les causes. Le problème est peut-être, me semble-t-il, que lorsque on cherche dans certaines religions la cause de cette violence, on en oublie qu'il y a d'autres interprétations que religieuses, et notamment les dérives politiques qui prennent un terreau religieux à des fins de violence, en effet. Donc, c'est à la fois un piège et aussi un enjeu que cette violence-là.
Parce qu'il y a aussi un double aspect, c'est que, semble-t-il, à ce moment-là, le pouvoir exécutif, en fait, aurait poussé en faveur, enfin, continuerait de pousser, puisqu'on va le voir, ça date pas de 2015, à l'enseignement du fait religieux, à la fois pour, une culture générale des élèves, mais aussi pour faire face au relativisme ambiant ou même conscient qu'en fait les jeunes Français qui deviennent djihadistes le sont parce que aussi parfois il y a un sentiment de vide religieux. Alors là, est-ce que l'école républicaine se prend pas un peu les pieds dans le tapis? On a presque l'impression que c'est étonnant comme situation si la République pousse pour cette raison-là.
La République est faite en quelque sorte pour mettre en forme un projet qui est le projet républicain, qui est de vivre ensemble, finalement. Sans gommer les différences, ça, nous le savons depuis maintenant 2003, depuis la déclaration de Jacques Chirac le 17 décembre 2003, qui disait que la diversité était une richesse, qui était une rupture par rapport à la tradition républicaine qui jusque-là cherchait plutôt l'uniformité à travers l'unité. Donc, faire creuser, c'est un projet républicain, sur la base démocratique. Et on ne peut pas faire un creuset si on n'admet pas l'autre tel qu'il est. Donc il faut le connaître. Donc l'enjeu de l'éducation est bien de poser les bases de la connaissance de l'autre à travers sa diversité, y compris religieuse.
D'accord, mais quand la République française s'inquiète en fait d'une forme de vide existentiel, voire de vide religieux chez les jeunes, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de surprenant?
Ben, elle s'inquiète de ce vide existentiel parce que peut-être qu'elle a perdu la notion de transcendance. Notion de transcendance qui n'est pas forcément religieuse, mais qui est aussi celle des valeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on établit un projet commun, il faut avoir quelques valeurs qui fédèrent. Et je pense que si la République est laïque, elle n'a pas à proposer de valeurs transcendantes dans le sens religieux du terme, mais en tout cas de proposer des valeurs laïques qui fassent le creuset. Et en ce sens, c'est sa mission.
Alors, est-ce qu'on peut revenir avec vous, peut-être, à l'esprit de la loi de 1905, donc ce qui a posé les bases de la laïcité à la française. On peut avoir l'impression, c'est un peu une tarte à la crème, mais on dit que la France, on va dire, est très laïque ou ultra laïque, et qu'il y aurait presque une mauvaise interprétation, en fait, de l'esprit des origines. Alors, qu'en était-il des débuts ? J'ai cru comprendre que même au début, en fait, il y avait diverses tendances, non ? Autour de cette séparation de la loi de l'Église et de l'État, et puis cette notion de la laïcité.
Oui, c'est-à-dire que la laïcité, le sociologue et historien des religions, qui est Jean Bobéro, a écrit un livre tout à fait remarquable en 2015, qui s'appelle « Les sept laïcités ». C'est-à-dire qu'il constate qu'il n'y a pas une laïcité, mais il y en a plusieurs finalement, il y en a sept, il en repère sept. Et cette notion de laïcité trouve cette polysémie en quelque sorte dès l'origine. Dès l'origine, parce que l'histoire de la laïcité n'est pas une histoire immédiate, c'est une histoire longue. Et en 1905, effectivement, plusieurs types de laïcité pouvaient apparaître au travers de cette loi de séparation. Hein. Il y avait la laïcité qu'on appelle gallicane, c'est-à-dire l'État se sépare certes de l'Église, ou des Églises, mais tout en veillant tout de même à avoir des moyens de pression sur elle. Il y avait l'autre version, qui était la version anti-religieuse, dont Maurice Allard, député socialiste, était la grande figure qui voulait se servir de cette loi pour annihiler le fait religieux, quel qu'il soit. Et puis il y avait une troisième tendance qui était plus libérale, qui était séparatiste certes, mais libérale, c'est-à-dire qu'elle pouvait, cette loi, donner liberté aux religions d'exister, mais tout en veillant à la neutralité de l'État, tout comme on exigera des religions ou des églises, lorsqu'elles sont instituées, de ne pas s'immiscer dans les affaires de l'État.
Et donc c'est celle-là qui
Et c'est celle-là qui a primé. Grâce à Briand, Aristide Briand, qui est le père de la loi 1905. Du reste, on dit aussi que la loi 1905 a été la mère d'Aristide Briand, puisqu'il s'est révélé à cette occasion-là. Et aussi, deux autres personnages. L'un qu'on connaît moins, qui est de Pressensé, et l'autre, qui est la grande figure du socialisme français à l'époque, qui est Jean Jaurès.
Alors, que prévoit, en fait, sur ce sujet, quelle frontière, en fait, entre, on va dire, liberté de conscience et enseignement religieux ? Puisque, si j'ai cru comprendre, en tout cas, c'est ce que, sur le site de l'Éducation nationale, on trouve ce trois triptyque qui est rappelé. Il s'agit de favoriser la liberté de conscience et non pas la liberté religieuse. Il importe d'opérer deux distinctions entre le public et le privé. Et puis, en même temps, la loi respecte toutes les croyances. Alors, est-ce que vous deviez résumer un peu le... Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit, normalement, de cette loi de 1905 que vous venez de décrire, celle qui a gagné à ce moment-là ?
Premier article, il est fondamental. Hein. La République respecte la liberté de conscience, mais garantit la liberté de culte. Donc ça, c'est fondamental. C'est le premier article. Hein. Donc, elle s'inscrit dans une démarche de liberté et d'expression de cette liberté. Mais elle établit aussi bien la séparation dans le fait que désormais la République ne salarie aucun culte. Voilà. Donc il n'y a aucun lien en termes financiers qui lie la République et ses églises. La loi prévoit aussi la police des cultes, puisqu'à partir du moment où on garantit la liberté des cultes, il faut bien en définir les règles et donc sanctionner les contraventions à la règle. Donc, de ce point de vue-là, la République joue son rôle de garant de l'ordre public. Et puis ensuite, elle établit les règles de la gestion des biens des églises qui jusque-là étaient dévolues à des manses, à des fabriques ou à des consistoires pour le culte protestant et le culte juif, à des associations qui sont désormais, tout en étant liées aux autorités religieuses et en respectant l'organisation du culte duquel elles se réfèrent, sont à même de gérer les biens qui ont été transférés à ces dites associations.
Mais quid du fait religieux ? C'est-à-dire qu'au départ, il n'est pas imaginable, en 1905, qu'il y ait un enseignement du fait religieux dans l'école républicaine.
Mais la loi de 1905 n'en parle pas. La loi 1905 est là pour régler les relations entre les églises et l'État. L'affaire de l'enseignement, c'est une affaire qui a été réglée dans les années 1880, par la loi de 1882, qui établit non pas la laïcité de l'école, mais la laïcité des programmes. Cela étant dit, donc, plus de catéchisme, d'accord. Jules Ferry, qui était le père de la loi, prévoit quand même un jour vaqué pour ses enfants afin qu'ils puissent suivre le catéchisme ou l'instruction religieuse de leur propre confession. Vous voyez que la démarche quand même des pères de la laïcité a toujours été une démarche de liberté, hein, ménager une liberté tout en séparant les choses. On mettait aussi dans les programmes de morale les devoirs envers Dieu. Les devoirs envers Dieu. Mais Dieu vu, considéré comme une notion philosophique, puisque c'est un peu l'héritage de Rousseau qu'on a là. Devoirs envers Dieu qui ont disparu en 1923.
Voilà, en tout cas, heureusement que vous êtes là, Philippe Dazébrun, pour nous remettre un petit peu les idées en place, en tout cas les miennes. Et je vais évidemment probablement très vite ou trop vite pour vous, mais j'ai entendu parler d'un certain rapport Joutard qui aurait eu un rôle important sur cette question de l'enseignement du fait religieux en France. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce rapport et qu'est-ce qu'il a commencé à, comment dire, pas à distiller, mais qu'est-ce qu'il a commencé à favoriser?
Le rapport Joutard a été remis au ministre de l'Éducation nationale de l'époque en 1989. Philippe Joutard est un historien, historien du protestantisme, et il était à l'époque, me semble-t-il, recteur d'académie. Il a été du reste recteur ici à Toulouse, et à l'époque il était à Besançon. Et finalement, ce rapport répond à une préoccupation qui lui remontait, qui était l'inculture religieuse des élèves. Et donc, dans ce rapport, il préconise l'introduction de l'enseignement des religions. Non pas du fait religieux, mais des religions. Voilà. Et c'est à partir de là qu'une réflexion est née, en effet, pour, si vous voulez, régler des enjeux qui sont des enjeux de transmission.
Parce que quel était son constat, en fait, de fait ?
Le constat était que les élèves étaient incapables de reconnaître une scène religieuse devant un tableau qui la représentait. Voilà. Quand je dis les élèves, je suis très minimaliste parce qu'il arrivait parfois que les enseignants ne le sachent pas non plus. Il y avait là une déperdition d'une substance qui était fondamentale pour, René Raymond le dira plus tard, pour l'identité nationale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe à côté d'œuvres capitales et que l'on n'en comprend pas le sens, eh bien, on se coupe d'un passé et on ne peut pas envisager un avenir. Voilà, le rapport Joutard répondait à cela.
Voilà, donc est-ce qu'il a été suivi d'effet ou est-ce que c'est un rapport qui est tombé aux oubliettes? Et puis deuxième question, comme ça fera deux en une. J'ai noté donc après l'autre étape qu'on peut citer, c'est donc après les attentats de 2001, le ministre Jacques Lang avait confié donc à Régis Debray, alors peut-être que vous pourrez nous dire qui est Régis Debray, parce que tout le monde ne le connaît pas, donc un autre rapport, et que là pour le coup, semble-t-il, ça a été comme une forme d'accélérateur, peut-être avant et puis ce rapport Régis Debray.
Philippe Joutard, si vous voulez, a initié une réflexion. Bon, je me souviens d'avoir participé à un colloque à l'Institut catholique qui a été mené par l'ISTR sur l'enseignement du fait religieux.
L'ISTR, c'est l'Institut.
L'Institut de sciences et théologie des religions, merci, qui dépend de l'Institut catholique. Et donc, sur l'enseignement du fait religieux. Hein. Et donc, il a eu le mérite, en tout cas, d'initier une réflexion. Mais cette réflexion n'a débouché sur rien, finalement, de très concret ou des choses très timides. Et il a fallu les grandes secousses, effectivement, la grande secousse des attentats. Parce que, bon, les attentats, on les connaissait, hein, parce qu'il faut quand même se souvenir des années 90, Khaled Kalkal et quelques autres, pour être à même d'apprécier que le fait des attentats n'est pas une chose nouvelle. Mais, si vous voulez, l'attentat des tours jumelles de 2001 a été suffisamment spectaculaire pour émouvoir. Et effectivement, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui était Jacques Lang, avait demandé à Régis Debray. Alors, Jacques Lang l'avait demandé et Régis Debray a remis le rapport qu'il avait rédigé à son successeur qui était Luc Ferry, plutôt dans un gouvernement de droite. Donc la gauche et la droite confondues ont été tout à fait d'accord pour mener une réflexion sur ce
voilà,
thème. Régis Debray était philosophe.
Grand intellectuel français.
Voilà, bon. grand intellectuel et qui reprend les données mais dans un spectre beaucoup plus large en ne se focalisant pas seulement sur l'histoire histoire, mais en insistant sur le fait qu'il fallait passer d'une laïcité, en quelque sorte, d'incompétence, c'est-à-dire que la laïcité jusque-là ne voulait pas s'intéresser à l'enseignement du fait religieux parce qu'elle s'estimait incompétente, à une laïcité d'intelligence. C'est-à-dire qu'il fallait prendre le phénomène avec le recul raisonné l'expliquer aux élèves.
Voilà, je ne sais pas si c'est un extrait du rapport d'Auvray, mais je crois, en tout cas, il dit, il me semble, la chose suivante. Comment comprendre le 11 septembre 2001 sans remonter au wahhabisme et aux diverses filiations coraniques et aux avatars du monothéisme? Comment comprendre les déchirements yougoslaves sans remonter au schisme du filioque? Alors, c'est la grande division entre orthodoxes et catholiques et aux anciennes, aux divisions, on va dire, entre chrétiens. Et comment comprendre même le jazz et le pasteur Luther King sans parler du protestantisme et de la Bible? Blève, difficile de comprendre le monde, en fait, sans une, ne serait-ce qu'une éducation minimum sur le fait religieux.
Avant d'être un monde basé sur la philosophie et la raison, notre monde fut religieux et il l'est resté. Donc, si on échappe...
Hors de la France.
Non, en France aussi. Hein.
Disons qu'en tout cas, la France est connue pour être un pays particulièrement athée.
La France fait partie des pays qui sont au top 10, n'est-ce pas, des pays les plus considérés, comme les plus athées dans le monde, après la Chine et le Japon. C'est très curieux, mais ça fait partie effectivement du... Et la France est dans ces records-là. Néanmoins, il suffit de tourner le regard quelque part dans nos campagnes pour s'apercevoir qu'il y a des clochers pour traverser quelques galeries de peinture pour voir qu'il y a quand même... quelques références religieuses et maintenant depuis quelques années des mosquées. Donc la France est loin d'être devenue un pays qui est a-religieux.
Alors on va faire une première pause musicale, en tout cas en teasing peut-être de la suite de l'émission. C'est dégagé de tout cela depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, donc l'enseignement du fait religieux est favorisé tant dans l'éducation nationale que dans l'enseignement privé, enseignement public pardon, et privé. Et pour autant, donc, la particularité française, c'est que ça n'est pas une matière à part entière. Bref, restez avec nous, on vous expliquera tout ça après la pause.
Thank you.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin sur l'école, quel enseignement du fait religieux, avec autour de la table Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse, Claire Rességuier qui est professeur d'histoire-géographie au lycée Sainte-Marie-des-Champs à Toulouse, et Mathieu Galvani qui est adjoint en pastoral à Saint-Nicolas à Toulouse également. Je le disais donc avant cette pause musicale, il y a donc une particularité française, fruit de cette histoire que nous a rappelé donc Philippe Dazébrun. Claire Rességuier, comment vous la résumeriez, cette spécificité française? C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas de matière spécifique pour l'enseignement du fait religieux, mais maintenant, il y a une incitation, c'est ça?
Voilà, ce n'est pas un enseignement disciplinaire. Le fait religieux convoque toutes les disciplines. C'est-à-dire que finalement, des mathématiques jusqu'à l'histoire, géographie, en passant par la philosophie, les enseignants sont invités à traiter du fait religieux. Alors le fait religieux, il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas d'enseigner une religion, pas plus la religion catholique que la religion musulmane, c'est inviter les élèves à réfléchir sur la façon dont les religions ont laissé dans l'histoire, ont laissé des traces et finalement font partie d'un héritage patrimonial.
Donc vous y êtes incité, alors vous y êtes de plus en plus incité, c'est ça depuis les différents rapports que l'on a cités.
Voilà, le rapport de Bré m'a marqué finalement, a montré comment les élèves étaient marqués par cette inculture à la fois religieuse et plus largement historique. Et on invite donc tous les enseignants à faire entrer dans leur réflexion disciplinaire le fait religieux. Oui, on y est invité. Alors, il y a des disciplines qui sont plus sollicitées. On pense en particulier à l'histoire, à la géographie, à l'enseignement des lettres, à la philosophie. Mais chaque enseignant peut, s'il le souhaite, eh bien, conduire cette réflexion dans le cadre de sa discipline.
C'est-à-dire même le professeur de mathématiques ou de sport pourrait trouver à parler...
Complètement, il est invité, oui, complètement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous prendre des exemples que, fort de votre propre expérience ou de celle que vous avez ou des échos que vous avez pu avoir d'autres collègues?
Oui, voilà.
Donc, on rappelle que vous enseignez dans le privé, mais qu'il n'y a pas de distinction à faire en l'occurrence, puisque en fait les programmes sont les mêmes, c'est ça?
Les programmes, pour ce qui concerne l'enseignement sous contrat, est exactement le même dans l'enseignement privé, dans l'enseignement public. Donc les professeurs enseignent les mêmes programmes, ont les mêmes textes officiels.
Et les incitations sont les mêmes.
Et les incitations sont tout à fait comparables.
Voilà, donc voilà. Cette précision faite, du coup, commençons par vous, en histoire-géographie, à quel moment vous êtes invité ou vous ne pouvez pas faire autrement, par exemple, que de parler du fait religieux?
Alors, en histoire-géographie, dès le cycle 3, classe de 6e, les professeurs sont invités à aborder le fait religieux dans le cadre notamment des textes fondateurs, des textes basiques qui sont enseignés dès la 6e sur des thèmes qui sont obligatoires, qui sont incontournables, en particulier le thème 2, récit fondateur, croyance et citoyenneté. Et les élèves doivent réfléchir dans le cadre de la Méditerranée, du premier millénaire avant Jésus-Christ, sont conduits à étudier les grands textes fondateurs, notamment la Bible.
Alors, parce que les autres, quels sont-ils en l'occurrence?
Eh bien, vous avez les grands textes, les grands textes comme l'Iliade et l'Odyssée.
Oui.
L'Iliade et l'Odyssée, la Bible, voilà, sont les textes, et qui sont travaillés bien souvent avec le professeur de français dans le cadre des EPI.
Et alors là, en l'occurrence, par exemple, quand vous parlez de la Bible, vous parlez de quoi en fait? Vous expliquez comment la Bible a été écrite, quels sont les livres qu'il y a dedans?
Oui, on présente d'abord...
une espèce de présentation générale?
Voilà, la Bible est présentée comme un ouvrage qui a été rédigé, qui a été rédigé dans un certain contexte, hein, qui est porté par un contexte, qui a été rédigé de main d'homme. Donc il y a l'historicité de la Bible qui est présentée aux élèves, et on essaie bien évidemment, dans le cadre des lectures de certains passages incontournables pour expliquer la naissance par exemple des Hébreux, hein, du peuple hébreu, eh bien on est invité là à lire des textes et à les contextualiser et à les présenter dans la profondeur historique et à en faire émerger le sens.
Alors vous, en l'occurrence, vous ne travaillez pas avec des sixièmes? Mais, je sais pas, vous avez eu des échos de comment les élèves, ils reçoivent ça comme une matière comme une autre, et puis, on va dire...
Alors, effectivement, les élèves...
Est-ce qu'il y a des réactions particulières? Est-ce qu'il y a des...
Les élèves sont dans le cadre d'une leçon d'histoire. Ils travaillent sur une discipline, la discipline histoire. Et dans ce contexte-là, doivent lire les textes. Et on invite les élèves à étudier les textes dans une dimension critique. C'est-à-dire, on ne fait pas une approche uniquement littérale, mais on contextualise le texte et on en montre la profondeur historique, en gros l'historicité. Et on montre que, finalement, le texte est élaboré dans un contexte qui est le sien.
Alors, est-ce que vous pouvez prendre l'exemple aussi peut-être du programme de 5e, c'est ça? Où il y a un module qui tourne autour de l'islam?
Alors, en classe de 5e, vous avez le thème 1, qui commence l'année, chrétienté et islam du 6e au 13e siècle. Et là, les enseignants sont invités notamment à faire connaître les débuts de l'islam. Ils sont invités donc à lire des passages du Coran. Et on fait exactement le même travail, c'est-à-dire on va contextualiser l'écriture du Coran.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, bien, finalement, poser la question comme le rapportent certains courants de l'islam. Est-ce que le Coran est un texte incréé ? C'est-à-dire écrit de la main de Dieu, parole de Dieu.
Voilà, révélé directement à Mahomet.
Voilà. En fait, on va montrer que le Coran, là aussi, dans un certain contexte, est un texte écrit de main d'homme. Donc là aussi, on est invité à montrer que le texte, dans un certain contexte, va être écrit, va être rédigé par les hommes. Et on invite les élèves, ici aussi, à avoir un regard critique.
Alors là, en l'occurrence, je trouve que c'est un exemple très intéressant parce qu'il peut y avoir aussi deux excès. Le premier, ce serait que le professeur, en fait, pose un jugement, en fait, sur ce texte et donc puisse heurter certains croyants, parce que même si on peut interroger, justement, l'écriture de ce texte, ce que vous venez de dire, c'est pas la même chose que de dire qu'il n'a pas été révélé par Dieu. Et puis, à contrario, c'est l'introduction d'une forme, comment dire, une incitation à la réflexion, à la raison, enfin, t'as un travail critique, là où parfois certains déplorent qu'il n'y en ait pas assez, c'est ça. Alors est-ce que vous pouvez éclairer peut-être ces deux aspects?
Alors là, vous posez un véritable problème, ce qui est d'abord celui de l'enseignement des maîtres. Enseigner le fait religieux, c'est pas facile. Et donc, il faut former les maîtres à analyser ces textes religieux et à pouvoir les contextualiser. D'où l'idée, et ça c'est une idée qui a suivi le rapport de Bray, il faut pouvoir former les maîtres et les former scientifiquement. D'où la création, au départ c'était dans le cadre des IUFM, créer des modules d'enseignement du fait religieux. Comment peut-on enseigner le fait religieux?
Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes connaissances, encore faut-il savoir comment l'aborder.
Tout à fait, et avoir des connaissances aussi, je pense que c'est important,
oui,
parce qu'on
ouais.
N'est pas tous des spécialistes des religions. Donc il est important de faire cette démarche de connaissances scientifiques, on est bien d'accord. Dans des modules, la création de l'IESR également, l'Institut de l'enseignement en sciences des religions, hein, qui a suivi le rapport de Bray. Donc, création de modules dans les IUFM pour pouvoir enseigner le fait religieux. Et puis, cette idée qui est quand même très importante, que le domaine des croyances peut être objet d'étude. Objet d'études historiques. Donc les croyances, on peut les regarder d'une manière très objective, très critique, parce qu'elles sont des faits de société et en ceci analysables.
Philippe Dazébrun, sur ce volet, l'introduction, d'aider les élèves, à quelle que soit leur confession, à, de toute façon, à faire un travail en raison à l'égard même de leurs propres croyances. Est-ce que là, c'est le travail de l'école républicaine, parce qu'en l'occurrence, c'est celui qui est fait ou qui est proposé aux élèves?
Oui, c'est-à-dire que de plus en plus, et ça c'est une des vertus des deux rapports que l'on a cités précédemment, c'est de prendre le fait religieux comme l'a dit Claire Séguier, comme un sujet d'étude. Voilà. Il faut dire que la France, quand même, s'est privée, et se prive toujours, mis à part en Alsace, de cette question-là, puisque la théologie manque, alors que partout ailleurs en Europe, elle fait partie de l'étude universitaire, la théologie manque au champ universitaire français.
Attends, j'ai pas compris là, comment vous sautez de l'un à l'autre? En l'occurrence, ma question c'était que l'école incite à un travail critique, quel qu'il soit, à l'égard de sa religion, et là vous me dites que ce qui manque c'est l'enseignement de la théologie en France. J'ai pas compris où était le passage.
Pourquoi? Parce que la République a besoin quand même de données scientifiques pour pouvoir le transmettre. Ces données scientifiques, il n'y a que les universitaires qui l'apportent, avec le recul que leur démarche scientifique leur permet d'avoir. Donc si la République doit enseigner le fait religieux dans l'école républicaine, quelle qu'elle soit, celle qui est sous contrat d'association comme les écoles libres par exemple, ou les écoles publiques, il faut qu'elle se saisisse d'un savoir et de méthodes qui sont enseignées à l'université. D'où l'intérêt, me semble-t-il, d'aborder ces thématiques aussi dans l'enseignement universitaire. Du reste, en histoire, on n'a pas attendu le rapport Joutard ni le rapport Debré pour aborder la question et pour l'étudier.
Alors, Claire Rességuier, j'en ai pas fini avec vous, mais on va quand même donner la parole un peu à Mathieu Galvani. Mathieu Galvani, donc vous représentez pas le privé, mais enfin, vous êtes donc adjoint en pastoral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la particularité de l'enseignement privé sous contrat en cette matière?
Alors c'est très simple, il faut déjà...
Tant mieux, j'aime les choses simples.
Il faut déjà contextualiser quelque chose, c'est que nous avons un caractère propre dans l'enseignement catholique. Ce caractère propre tient à notre projet. Et notre projet nous invite à pas créer une matière, mais créer des temps pour permettre aux élèves de développer le vivre ensemble, de développer la découverte de l'autre, découverte des autres religions. Je vais prendre l'exemple de mon établissement où je travaille. Nous avons des heures de culture religieuse et de culture chrétienne pour tous les élèves. Nous avons aussi des heures de catéchèse pour les élèves qui le souhaitent. Et nous sommes dans une dynamique de proposition envers nos élèves. C'est-à-dire que nous accueillons tous les élèves. L'école catholique est une école ouverte à tous. Et de ce point de vue, nous devons faire une proposition qui touche tout le monde. Aussi bien des élèves qui soient musulmans, que catholiques, que protestants, que juifs, qu'hindous. Par exemple, à Saint-Nicolas, on a une dizaine de religions.
Une dizaine de religions?
Des jeunes qui viennent de partout.
Attendez, parce que là, ça fait beaucoup quand même, 10.
Ben, vous avez des hindous, des bouddhistes, vous avez des protestants, et dans le protestantisme, vous avez différentes confessions protestantes.
D'accord.
Vous avez des angéliques, des luthériens, vous avez des orthodoxes aussi qui viennent. Vous avez même deux jeunes coptes.
Alors que prévoit exactement en fait donc l'enseignement catholique? Vous l'avez dit rapidement, mais donc il y a deux volets. Il y a un module, on va dire, obligatoire, et ça c'est propre à tous les établissements de l'enseignement catholique.
Ça dépend du chef d'établissement.
Personne ne peut y déroger.
Ça dépend du chef d'établissement qui décide comment il veut mettre en place cette dimension de caractère propre. Ça peut être à travers des temps forts. Par exemple, nous, on a fait des temps forts où nos élèves...
Alors, ce premier module que vous décrivez, c'est-à-dire enseignement des religions, ou l'enseignement, le premier, comment vous l'appelez, l'enseignement religieux, c'est ça? Il n'y a pas un nom spécifique?
C'est de la culture chrétienne et de la culture religieuse.
Voilà, culture chrétienne, culture religieuse, donc c'est une heure normalement par semaine, c'est ça?
Une heure par semaine, une heure toutes les deux semaines, ça dépend des établissements.
D'accord, donc c'est laissé complètement à la discrétion du chef d'établissement. Il peut décider qu'il n'y a rien du tout.
Logiquement, en vue du projet, il est obligé de proposer quelque chose.
D'accord.
Il faut proposer quelque chose à tous les jeunes de l'établissement.
Donc c'est obligatoire juste pour les élèves, c'est-à-dire que d'une certaine manière.
D'une certaine manière, il faut aussi amener les enseignants qui le souhaitent, les personnels OGEC, c'est-à-dire les personnels qui travaillent dans l'établissement, à pouvoir participer, à pouvoir vivre des choses avec les élèves pour vraiment développer cette dimension de vivre ensemble.
D'accord, alors quand ça existe, qu'est-ce qu'il y a dans cet enseignement religieux et donc entre autres cette culture chrétienne ?
Alors on n'appellerait pas ça un enseignement religieux, parce qu'un enseignement religieux, c'est...
Enseignement des religions, pardon.
Des religions. Nous avons une découverte de comment vivent les religions, par exemple avec les 6e, nous à Saint-Nicolas, nous avons comment vivent les juifs, comment vivent ils vivent leur religion au quotidien, comment les musulmans vivent leur religion au quotidien, comment les chrétiens vivent leur religion au quotidien, non pas comme un fait religieux, mais réellement comme l'observation de ce qu'ils font, pour essayer de comprendre ce qu'on voit dans la société.
Et on essaie de comprendre de l'intérieur, en fait.
De l'intérieur,
oui.
À travers des livres qui ont été faits spécifiquement pour ça. Par exemple, nous avons un livre qui s'appelle Kiménoé, qui aborde un sujet de formation humaine, puis ensuite un sujet de culture chrétienne, puis ensuite un sujet de culture religieuse, qui alors, touche toutes les autres religions ensuite.
Et alors, qui s'y colle, si je puis dire ?
Ça dépend des établissements.
C'est pareil, c'est laissé à la discrétion du chef d'établissement qui va demander à certains enseignants s'ils sont d'accord pour le faire ou pas.
Déjà, c'est une proposition aux professeurs, aux enseignants de l'établissement. C'est une proposition aussi faite. On va aussi à la recherche des personnels au GEC qui souhaiteraient le faire. On peut aussi demander à des parents qui souhaitent le faire, sachant qu'on fait une petite formation avant sur l'outil, parce qu'on ne peut pas laisser dire n'importe quoi et n'importe comment. Puis ensuite, dans l'enseignement catholique, vous avez aussi des adjoints pastoraux scolaires, des personnes qui sont dédiées à cette dimension pastorale.
Comme vous.
Comme moi.
Voilà. Et puis, il y a, mais ça c'est différent, donc la proposition de la catéchèse. Ça,
proposition
c'est...
de la catéchèse.
Voilà. Avant qu'on fasse une deuxième pause, Philippe Dazébrun, sur cette liberté des chefs d'établissement, comment comprendre cette souplesse, j'ai envie de dire, on peut rien, on fait mal ce qu'on est contraint de faire, mais je ne sais pas d'où vient cette particularité de l'enseignement catholique, et puis pourquoi est-ce qu'il y a c'est laissé comme ça à discrétion des chefs d'établissement ?
Parce que tout simplement, l'enseignement libre n'est pas aussi corseté que l'est l'enseignement public. C'est-à-dire que les chefs d'établissement ont quand même une marge de manœuvre qui est infiniment plus grande que leurs collègues de l'enseignement public. Voilà. Et puis, il y a, notre ami y a fait référence, cette loi Debré de 1959 qui définit bien que l'enseignement privé est doté d'un caractère propre. Ce caractère propre, il faut bien qu'il se manifeste quelque part, et cette marge de manœuvre peut être utilisée effectivement pour y inscrire l'enseignement du fait religieux.
Un petit mot juste avant qu'on fasse cette deuxième pause sur lequel l'Alsace-Moselle, pardon, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais dites-nous un petit peu comment ça se passe là-bas.
Alors, le régime concordataire est toujours en vigueur là-bas, puisque lorsque nous votions les lois républicaines dans les années 1880 jusqu'en 1905, ces deux provinces étaient sous le contrôle allemand. Donc, lorsqu'elles sont revenues dans le giron français après la victoire de 1918, le régime concordataire a été maintenu. Dès lors, en Alsace et Moselle, il y a un enseignement du fait religieux obligatoire, mais il est vrai que depuis quelques années, les parents d'élèves peuvent demander des dispenses. Il n'empêche que c'est obligatoire. C'est-à-dire que la démarche est non pas le volontariat, c'est l'obligation, avec aménagement de dispenses lorsque les parents le désirent.
Dispenses qui seraient de plus en plus nombreuses. On va faire une deuxième pause et puis on va voir un petit peu comment les élèves reçoivent ces différents enseignements et puis peut-être quelles sont vos préconisations pour que ce mouvement qui commence à traverser la société française peut-être s'accentue ou en tout cas qu'il trouve ses marques et ses bonnes marques.
Présence à Millau, 106.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
École, quel enseignement du fait religieux? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église ce matin. Et si par hasard vous nous prenez en cours de route autour du plateau, il y a donc Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse, Claire Rességuier, professeur d'histoire-géographie à Sainte-Marie-des-Champs à Toulouse également, et Mathieu Galvani, adjoint en pastoral à Saint-Nicolas à Toulouse toujours. Alors, vous nous avez expliqué un petit peu, on a fait un peu d'histoire, et vous nous avez expliqué ce qui existait aujourd'hui en France. Donc, je rappelle qu'en France, il n'y a pas d'enseignement spécifique du fait religieux, mais il y a une incitation depuis maintenant, on va dire, une bonne dizaine d'années à en parler davantage dans le cadre des différents programmes, bref, à ne plus se priver et à passer. Quelle était la formule de Régis Debray ?
D'une laïcité d'incompétence à une laïcité d'intelligence.
Voilà. Ça ressemble bien au franc-parler aussi de ce grand intellectuel Régis Debray. Et donc, vous nous avez décrit cette réalité. Alors, peut-être, est-ce que... déjà, comment le prennent les élèves, Claire Rességuier ? Est-ce que vous avez eu parfois des retours d'élèves ou certains collègues qui, je sais pas, réagissent mal, comprennent mal, etc. Je suis tombé, entre autres, en préparant l'émission, sur ce témoignage qui est rapporté donc dans une revue, je crois, de l'enseignement catholique, « La lettre de l'éducation ». Non, c'est pas l'enseignement catholique, je crois que c'est un supplément du Monde, peu importe, qui raconte qu'un certain Jean-Michel Zakartouk, professeur de français en collège, a essuyé en 1994, pour la première fois, à l'occasion d'une sortie scolaire à Paris, le refus d'un élève de pénétrer dans Notre-Dame. Voilà. Alors, est-ce que les élèves sont parfois un peu chatouilleux sur ces sujets, ou en fait, est-ce que ça se passe, ça passe comme une lettre à la poste, comme on dit ?
Habituellement, ça se passe bien. Et ça se passe bien quand il y a eu auparavant une présentation pédagogique de l'activité. On ne rentre pas dans une église pour faire acte de foi, on rentre dans une église pour faire un travail historique, littéraire. Il est préparé en amont. Sur le terrain, les élèves peuvent rentrer dans l'église parce qu'ils n'y entrent pas pour faire acte de foi, ils y entrent pour y recueillir des informations, faire un travail en collaboration avec une équipe d'élèves, produire un produit fini dans le cadre d'une activité qui est exclusivement une activité intellectuelle, scientifique et d'apprentissage
méthodologique. Est-ce qu'à contrario, ils se montrent intéressés ?
Ils se montrent intéressés parce qu'il y a en amont cette préparation. Et les rares refus d'exécuter ce qui est demandé, les rares refus parce qu'il y en a effectivement, eh bien, font apparaître un défaut de préparation en amont. Donc, il est toujours très important d'expliquer aux élèves pourquoi on va se rendre dans une église, pourquoi on va se rendre dans une mosquée, parce qu'il y a un travail à faire qui porte sur le programme et qui n'est pas, si vous voulez, la fantaisie de l'enseignant. C'est fait dans un cadre très rigoureux.
Mathieu Galvani, même question. Quel retour vous avez des élèves pour cet enseignement des religions dans le cadre de l'enseignement privé sous contrat ?
Le retour des élèves est simple, c'est qu'ils...
Mitigé, semble-t-il, non ?
C'est pas mitigé, c'est qu'avec l'adolescence, il est toujours difficile de s'intéresser à ces sujets. Ils sont plus dans la mode, dans les médias...
Ça mérite d'être clair.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on parle de ces questions de sens dans ces heures que nous, on appelle des heures de pastorale, mais sont de culture religieuse et de culture chrétienne, ils sont très intéressés parce qu'ils sont très intéressés par la question du pourquoi. Pourquoi je suis là, qu'il soit chrétien, juif, musulman, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là ? Et on voit très clairement, et je suis d'accord avec elle, avec Claire Rességuier, que on a vraiment un problème de culture. C'est vraiment la différence. Nous, on fait rentrer des élèves sans problème dans une église, si on leur explique, on le fait en lien avec les professeurs d'histoire géo, que c'est de la dimension culturelle et non pas du cultuel.
Mais quand vous dites le pourquoi, c'est-à-dire en fait, ils s'interrogent sur le sens de la vie dès la sixième, ou c'est juste qu'ils se demandent...
Ils s'interrogent sur le sens de la vie.
Ce que c'est qu'une église ou ce que c'est qu'une mosquée.
Ce que c'est une église, oui. Pourquoi, à quoi ça sert, qu'est-ce qui se passe, etc. Dedans, nous, il est arrivé une année qu'il y ait des baptêmes d'élèves dans l'établissement et que des élèves de notre confession religieuse viennent à la célébration pour assister à ce que vivaient leurs camarades. Donc c'est quand même très fort. Des élèves musulmans qui viennent chanter à la célébration pour leurs camarades. Donc on essaie quand même de vivre ce vivre ensemble, et je pense que ce vivre ensemble, pour la plupart des élèves, puisqu'il y a toujours des cas particuliers, pour la plupart des élèves, leur apporte énormément parce qu'ils découvrent, et et ils connaissent. Ce qu'on essaie de faire dans ces heures de pastorale, c'est vraiment qu'ils se connaissent et qu'ils apprennent à vivre ensemble. C'est très important pour nous. Et je pense que c'est aussi important de faire de la culture dans les lieux de culte.
Philippe Dazébrun, vous disiez lors de la pause, j'espère ne pas traduire des propos qui devaient être off, mais que en fait l'enseignement des religions dans le cadre de l'enseignement donc privé sous contrat est pas très fréquent en fait dans les établissements. Alors est-ce que c'est parce que ça ne passionne pas les élèves aussi? Est-ce que ça peut être une des raisons?
Il y a plusieurs raisons à cela. La première
est déjà c'est un fait que vous confirmez.
Ah, c'est un fait que je confirme. Il est minoritaire. Et il tient, je dirais, à plusieurs raisons. D'abord, il faut du personnel pour cela. Or, il faut bien constater une chose, c'est que dans nos établissements privés catholiques sous contrat, nous n'avons pas toujours le personnel qui, bénévolement, parce que ce seraient des heures bénévoles, bien évidemment, prêt à assurer une heure de cours pour faire connaître les religions à leurs élèves.
Ah, c'est bénévole en fait.
C'est totalement bénévole.
Vous n'êtes pas payé une heure ou deux supplémentaires.
Absolument pas. Ça rentre dans un.
Ah oui, c'est quand même un gratis.
Absolument. Puisqu'ils ont leur service d'enseignement et ils sont chargés de l'enseignement disciplinaire pour lequel ils ont été recrutés par un concours et ensuite par le chef d'établissement, ça ne rentre pas dans leur champ d'activité professionnelle.
C'est pas gratis pro deo en l'occurrence, c'est gratis, je ne sais pas comment dire en latin, mais pour la culture générale.
On le dira comme ça. Si ça rentre dans la perspective de la pastorale de l'établissement, c'est pro deo aussi. Donc, il y a un problème matériel. Il est très difficile dans tous les étages de l'enseignement en collège et en lycée de trouver le personnel qui est capable de cette abnégation-là. Voilà. Je pense que les chefs d'établissement sont de plus en plus interpellés, et je crois que là, ils répondent de plus en plus à cette question-là, puisque je connais quelques établissements toulousains qui sont perceptibles, en tout cas, dans cette dimension, de répondre à une nécessité de la part des élèves, parce que effectivement, peut-être que les élèves se consacrent beaucoup à des questions de mode. En tout cas, il y a des questions de fond auxquelles il n'y a pas de réponse. Et quand on voit que certains élèves de lycée, par exemple, ne savent pas ce qu'est une église, c'est qu'ils ont loupé quand même un pan de la cinquième qui leur explique le Moyen-Âge et la religion chrétienne au Moyen-Âge. Donc voilà, c'est une affaire de répétition, l'enseignement. Et si on ne répète pas ce genre de choses, eh bien, ça échappe.
Alors, pour finir, il nous reste 5 minutes. Quelles seraient vos préconisations en la matière pour que l'enseignement du fait religieux, on va dire, ça devienne une réalité en France? Déjà, faut-il réellement le souhaiter au vu de ce qu'on a dit précédemment? On imagine que oui, en tout cas, c'est aussi le souhait des pouvoirs publics. Si on fait un petit tour de table, Claire Rességuet, qu'est-ce que vous appelleriez de vos voeux pour que ce sujet avance?
Oui, je pense qu'il faut effectivement confirmer cet enseignement du fait religieux. Il faut, me semble-t-il, former les maîtres. Ça, je le dis, c'est important. Philippe Dazébrun vient de le dire. Enseigner le fait religieux suppose de connaître les religions et de bien les connaître, d'avoir fréquenté les ouvrages, les livres.
Donc aujourd'hui, ça n'existe pas dans la formation des enseignants? Il n'y a pas de module comme ça sur l'enseignement des religions?
Alors, l'enseignement du professeur est d'abord un enseignement universitaire. Il y a tout un parcours avec des choix. Un enseignant peut faire le choix, effectivement, de s'informer.
Mais est-ce qu'après concours, il n'y a pas un module, quand on se prépare à devenir enseignant, module enseignement des religions?
Non, du tout.
Voilà, donc il faut s'y être intéressé à titre personnel.
À titre personnel, dans le cadre effectivement de son parcours universitaire. Et ce serait peut-être souhaitable dans le cadre maintenant des maisons de formation, des maîtres, des ESP, d'introduire peut-être des modules de fait religieux. Je pense que...
Donc ça n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne tient qu'à la culture générale de l'enseignant et à sa bonne volonté, c'est
absolument
ça?
Absolument.
Voilà, donc c'est une première préconisation. Oui. Je ne sais pas, Mathieu Galvani, qu'est-ce que vous auriez comme préconisation en cette matière, vous qui avez les...
Eh bien, il y a une chose très simple, et je rejoins Marie-Claire. C'est quelque chose...
Claire, pardon. Elle a du mal avec votre prénom et vous aussi, mais c'est pas grave.
Très simple, ça serait qu'avec la dimension pastorale de l'établissement, on puisse aussi organiser dans les établissements, en tout cas dans les établissements catholiques, des colloques, des choses qui permettent aux enseignants de prendre conscience de cette importance du fait religieux, aussi bien des apports universitaires que des apports des différentes religions pour que ces profs soient aussi face à leurs élèves et qu'ils puissent aussi essayer de répondre à ces questions s'ils le souhaitent. Et ça, on reste bien dans le souhait.
Donc un travail de sensibilisation des enseignants.
De sensibilisation, totalement.
La parole est à Philippe Dazéroin pour clore cette émission. Je ne sais pas, vos préconisations, quelles sont-elles ?
Moi, j'en verrai trois et trois publics différents. La première, effectivement, concernerait les enseignants. Formation initiale, formation continue. Il faut répondre aux contestations, notamment de certains élèves, parce que certains élèves contestent, il faut bien le reconnaître, hein, contestent l'enseignement du professeur. Donc, il faut qu'ils soient armés intellectuellement pour pouvoir répondre. Donc, formation, ça, il faut insister là-dessus. La deuxième chose, je crois qu'il y a une pédagogie à faire auprès des parents d'élèves, pour qu'ils comprennent bien l'intérêt qu'il y a à ce que leurs enfants connaissent le fait religieux. Et ça, je crois qu'il faut absolument travailler aussi les parents
d'élèves. Parfois lever des craintes, oui. C'est...
Absolument. Et puis la troisième chose, et là c'est au rang supérieur, j'espère que le ministre, enfin je ne pense pas que ce soit sa préoccupation principale, devrait s'en préoccuper. Je pense qu'il faut arrêter cette dilution de l'enseignement du fait religieux dans plusieurs disciplines, d'autant plus que si en histoire-géographie ou dans l'enseignement moral et civique, il y a des thématiques et donc on est corseté par un programme, autant en philosophie ou en lettres, on peut choisir n'importe quel texte et passer complètement à côté de l'enseignement du fait religieux. Donc je pense que la solution, dès lors qu'on voit les effets aujourd'hui, c'est-à-dire que le rapport de Bray date de 2001, on voit qu'aujourd'hui les questions restent quand même les mêmes, avec une recrue de violence et d'identité affirmée par un communautarisme exacerbé, partout. Eh bien, il faut peut-être remettre à plat cet enseignement du fait religieux qui est dilué et mettre une discipline carrément de l'enseignement du fait religieux ou des religions, qui me paraît peut-être plus approprié.
Et ben voilà, l'appel est lancé, et comme on sait que vous avez pas mal de responsabilités par ailleurs, on compte sur vous en tout cas pour faire passer le message. Merci beaucoup à nos invités d'être venus ce matin nous parler de cette question importante du fait religieux. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Merci également à Hélène Gazot pour son aide. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.